Max Weber. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer qu'il y a, chez Pélage, des affinités entre la conception qu'il a du christianisme et des valeurs des aristocrates à qui il s'adresse en tant que maître. Alors, le premier aspect que je pourrais souligner, c'est une opposition entre une perfection manifeste, qui est celle que veut Pélage, et une sainteté cachée, qui est ce dont parle Augustin. Je vais vous donner juste deux exemples avec deux textes. On pourra d'ailleurs y revenir. Enfin, ce sera pas vraiment comme vous voulez. Je me rends compte, d'ailleurs, que j'ai dû faire une faute dans mes références. Non, c'est bien ça. Ma référence est bonne. Voici, par exemple, ce qu'est capable d'écrire Pélage. La sagesse humaine consiste à rendre la pareille à ses ennemis. C'est en effet une folie en ce siècle que de vouloir tendre l'autre joue à celui qui te frappe. Mais si tu fais preuve d'une telle patience, d'une telle humilité, tu pourras être jugé digne d'approbation, non seulement par le Seigneur, et c'est là, à mon avis, que ça dérape, mais aussi par tous les hommes. L'idée de Pélage, c'est qu'au fond, on peut réussir dans la vie. On peut réussir auprès des hommes avec la perfection chrétienne. Il n'y a pas du tout l'idée que la perfection chrétienne pourrait créer des tensions avec le monde. Il y a l'idée que pour le monde, la perfection chrétienne est intelligible. Et donc, qu'on peut être réputé, qu'on peut être célébré par les êtres humains quand on atteint la perfection. Alors, pour Augustin, en revanche, et je vais vous donner juste une citation, mais il y aurait tout un dossier de texte. Pour Augustin, au contraire, et là nous avons une tendance très forte d'Augustin, ce qui compte est caché. Et en particulier, ce qui est de la véritable valeur des personnes dépend du jugement dernier et n'est pas visible dans l'histoire. Il y a toujours quelque chose qui échappe à la vue humaine en comparaison de l'omniscience de Dieu. Alors, je vous cite un passage d'Augustin qui est dans la Cité de Dieu, au livre 20. Cette différence entre les récompenses et les peines séparant les justes des injustes ne se voit pas sous notre soleil en la vanité de cette vie. Mais quand elle éclatera, la différence entre les justes et les injustes, quand elle éclatera sous le soleil de justice, dans la révélation de la vie future, alors aura lieu un jugement tel, assurément, qu'il n'y en aura jamais eu de semblable. Un jugement tel, assurément, qu'il n'y en aura jamais eu de semblable. Ce que vous avez ici, c'est ce que j'appelle pour ma part la tension eschatologique. Le chrétien, selon Augustin, est quelqu'un qui attend le jugement et qui sait que la vérité de chaque existence humaine et de l'histoire humaine ne peut être révélée qu'au-delà de l'histoire, à travers le jugement divin et non pas à travers le regard et les opinions des hommes. Ce qui sépare aussi Pélage et Augustin et que j'ai essayé de souligner, c'est, je dirais, une différence entre la bonne conscience pélagienne et l'inquiétude augustinienne. Alors, je vous donnerai juste deux exemples de textes, mais il me semble qu'ils sont relativement éloquents. Voici ce qu'écrit Pélage. C'est du Pélage authentique. Je laisse de côté ce soir les ouvrages qui sont attribués à Pélage par certains spécialistes, mais qui ne sont pas reconnus comme étant de Pélage par le consensus des chercheurs. Voici ce que Pélage écrit. Il y a en effet, selon moi, en notre esprit, pour ainsi dire, une sorte de sainteté naturelle. Naturelle, vous voyez, créée. Vous voyez, ce qui est mis entre parenthèses, c'est le péché originel. Il n'y a pas l'idée qu'il manquerait quelque chose à l'être humain depuis le péché originel et que l'être humain aurait besoin de la grâce divine. Et cette sainteté naturelle, voici ce que Pélage dit, siégeant en la citadelle de l'esprit, elle juge du mal et du bien. De même qu'elle approuve les actions honorables et droites, de même, elle condamne les méfaits. Elle juge les litiges d'après le témoignage de la conscience selon une sorte de loi intérieure. Vous voyez, Pélage est l'homme d'une certaine transparence de la conscience humaine à elle-même. La conscience humaine n'est pas brisée, n'est pas blessée, il n'y a pas eu de chute originelle, il y a simplement un mauvais exemple donné par Adam. Mais l'être humain n'a pas changé. L'être humain, pour Pélage, a toujours la même capacité à discerner le bien et le mal, et il a de toute façon la capacité à devenir parfait, à arriver à l'absence de péché. Augustin, au contraire, nous propose une idée de la vie chrétienne qui est celle d'une sorte de, disons, de lutte permanente. Alors, je vous donne deux exemples. D'abord, il y a la lutte contre l'orgueil. Pélage donne beaucoup dans l'autosatisfaction, au fond. Il a tendance à apporter des possibilités d'autosatisfaction à ces personnes à qui il adresse des conseils spirituels. Alors qu'Augustin, au fond, c'est l'homme qui se méfie avant tout de l'orgueil. Vous avez là quelque chose qui est très important aux yeux de la tradition chrétienne et qui a été maintes fois repris. C'est que la source du péché, et ça c'est déjà chez Paul, c'est l'orgueil. Au-delà de toutes les formes de concupiscence, de cupidité, de haine, il y a l'orgueil. Et l'orgueil a cette capacité à se glisser à l'intérieur même de nos actions bonnes. Alors je vous donne ces quelques lignes d'Augustin, car dès l'instant qu'un homme s'est réjoui d'avoir surmonté l'orgueil en quelque bonne œuvre, hein, c'est un homme qui vient de faire quelque chose de bien, qui en plus a évité de s'enorgueillir, eh bien, il y a une deuxième offensive de l'orgueil, et Augustin dit, l'orgueil dresse la tête à partir de cette joie, de la joie non seulement d'avoir bien agi, mais d'avoir surmonté le premier orgueil d'avoir bien agi. Il y a un second orgueil qui dit, et ça c'est Augustin qui fait parler l'orgueil, « Me voici bien vivant, de quoi triomphes-tu? Je vis de ce que tu triomphes. » Dans le triomphe personnel de celui qui se dit « j'ai fait le bien » et même « j'ai évité de m'enorgueillir », c'est un retour de l'orgueil précisément à ce moment-là. Alors, vous me direz « c'est terrible ». Oui, c'est terrible et c'est notre vie en fait. Et la solution que donne Augustin, la solution c'est l'action de grâce. C'est de savoir qu'on n'a pas fait le bien soi-même en réalité. C'est que la louange ne va pas à nous, comme dit le psaume, elle ne va pas à nous, elle va au Seigneur. Et que cette volonté de faire le bien, de toute façon, est un combat de chaque jour. Et là, je vous donne un autre texte d'Augustin, très bref là aussi, et vous allez voir l'image qui est dans ce texte. Les péchés surviennent chaque jour, chaque jour, à travers l'habitude de la vie quotidienne, et il ne cesse de s'introduire à la manière des flots de la mer qu'est ce monde, en profitant d'une certaine infirmité qui est la nôtre, et copez-les avec de bonnes œuvres pour ne pas subir de naufrage. Le chrétien est celui qui combat tous les jours, qui pêche tous les jours, et qui combat tous les jours. La preuve que prend Augustin est d'une simplicité extraordinaire. Il se fonde sur quoi ? Tout simplement sur le Notre Père. Tous les jours, nous disons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et Augustin dit « Si nous demandons le pardon pour nos offenses tous les jours, selon la prière que nous a enseigné le Seigneur, c'est précisément parce que le Seigneur sait que nous péchons tous les jours, que nous sommes faibles et que notre lutte contre le péché est une lutte de chaque jour. Il faut écoper pour que le navire ne se remplisse pas d'eau. » Alors, vous avez là des points extrêmement importants chez Pélage et Augustin. Pélage, c'est un optimisme. Et Augustin, je ne dirais pas que c'est un pessimisme, car je ne crois pas que ce soit cela. Augustin, c'est plutôt un christianisme de combat. Pélage, c'est un christianisme de triomphe. Augustin, c'est un christianisme de bataille, c'est un christianisme de lutte. Alors j'en viens à un quatrième thème, si vous voulez. Donc j'ai eu la chronologie, la crise d'identité, quelques mots sur ces affinités électives entre des milieux sociaux et des attitudes chrétiennes. Il est sûr que cette sûreté de soi de Pélage ressemble à la conscience de leur supériorité chez les aristocrates romains de confession chrétienne. J'en viens un rapport entre l'élite et la masse. Je crois que l'une des manières, je dis bien l'une des manières, c'est loin d'être la seule, que l'une des manières de lire la crise pélagienne, c'est de nous rendre compte que Augustin est le grand pasteur d'un christianisme de masse. Je dirais d'un christianisme multitudiniste, qui est fait pour tout le monde. Alors que Pélage a une tendance très forte à l'élitisme. Alors bien sûr, c'est très grand de vouloir faire une élite chrétienne. Simplement, le risque, c'est aussi de limiter l'Église à ceux qui en seraient vraiment dignes. Autrement dit, de réduire l'Église à une sorte de communauté sélective qui se définirait par la perfection de ceux qui sont dedans, alors que pour Augustin, et en vérité pour la grande tradition chrétienne, l'Église est l'école de ceux qui ont besoin de toujours apprendre et l'hôpital où l'on se soigne des blessures du péché. L'Église accueille tout le monde, et elle accueille tout le monde, non pas pour favoriser la médiocrité dont parlait votre aumônier tout à l'heure, mais pour que la conversion se fasse jour après jour, pour que chaque jour soit donné la possibilité de se convertir. Et là, vous avez quelque chose qui est très important chez Augustin, c'est de considérer que l'Église n'est pas un ensemble de parfaits, mais quel est l'ensemble des gens qui cheminent en sachant qu'ils tombent, en sachant qu'ils ont des difficultés, mais en gardant l'espérance, en gardant les vertus théologales au moins sous la forme d'une aspiration. Alors ça permet aussi chez Augustin deux choses. Ça permet la sainteté de masse. Pour Pélage, je vous l'ai déjà dit, la sainteté, ça se voit. Augustin me semble être le premier théoricien de la sainteté cachée et même du martyr caché. Le chrétien tout à fait ordinaire, qui, dans sa vie quotidienne, refuse le péché en prenant des risques, par exemple en tenant tête à un puissant qui veut lui faire porter un faux témoignage ou qui veut le corrompre contre l'un de ses voisins. Eh bien, Augustin dit, dans différents sermons, que celui qui a pris ce risque de subir des attaques de la part des hommes, des attaques éventuellement mortelles, pour rester fidèle au Christ et pour rester fidèle à la loi du Christ, celui-là, même si on ne célèbre jamais sa fête, son anniversaire, même si personne ne le connaît, est un martyr martyr in occulto, c'est un martyr caché. Et que le christianisme est plein de ces martyrs cachés. Et puis, je voudrais vous signaler une autre idée d'Augustin, et qui est celle de la sainteté soudaine. Si vous voulez, Augustin n'a pas cette idée que, avec le baptême, comme le voudrait Pélage, on bascule complètement dans une nouvelle vie que l'on va essayer de garder parfaite. Augustin croit beaucoup plus à des phénomènes de chute et de conversion qui viennent tout à coup modifier la trajectoire d'un chrétien. Par exemple, Augustin nous parle de gens riches qui n'ont pas abandonné leur richesse, qui n'ont pas cherché la perfection, qui n'ont pas voulu vivre dans la pauvreté, qui ont gardé leur richesse, qui ont même aimé leur richesse, et qui tout à coup, en une certaine circonstance, ont accepté du jour au lendemain de perdre leur richesse au nom du Christ, parce qu'on les menaçait, parce que c'était ou garder leur richesse ou garder leur foi, et ils ont préféré leur foi. Et là, Augustin est sensible à un travail de la grâce qui fait que des gens ont été, il le dit ainsi, « repente perfect », parfaits tout d'un coup. Ils n'ont pas été parfaits dans la durée avec leurs forces humaines, ils ont été tout à coup transformés par la grâce dans eau et ils ont été capables de perfection. Ça, c'est ce qui intéresse Augustin, c'est ce qui fait qu'il ne doute pas des gens, qu'il ne doute pas de ce qui peut se passer, et de ce phénomène qui est capital, évidemment, dans toute la pensée chrétienne, à savoir la conversion. Alors, un dernier mot, c'est vrai qu'Augustin a été amené à pousser très loin la polémique, d'abord contre Pélage, ensuite contre Julien Desclanes, comme vous le savez. Et il y a une idée chez Augustin qui pose problème et qui a posé des problèmes tout au long de l'histoire du christianisme, c'est cette idée de prédestination. C'est-à-dire qu'Augustin a été amené à insister si fort sur la grâce de Dieu que il en est venu à penser que la grâce de Dieu est à la fois indispensable et efficace, et que donc, si quelqu'un ne se convertit pas, c'est que peut-être Dieu ne l'a pas choisi, ne l'a pas prédestiné, ne l'a pas choisi à l'avance. Alors là, il y a quelque chose que la tradition catholique n'a pas repris à Augustin. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que si l'on voit de très près les textes de la fin de la vie d'Augustin, et notamment ses derniers textes sur la prédestination, on voit qu'Augustin a pris beaucoup de recul face à lui-même, face à sa propre doctrine de la prédestination. Et qu'il a mis beaucoup d'incertitude dans cette doctrine elle-même, et qu'il s'est surtout bien gardé de penser que le choix de Dieu, si choix il y a de la part de Dieu, pourrait être accessible aux hommes, pourrait être compréhensible par les hommes, et il laisse cela comme un doute en invitant tout le monde, oui tout le monde, à rechercher le salut, à rechercher la perfection. Je vais m'arrêter là par volonté de respecter le temps que vous avez bien voulu m'impartir. Je vous le dis très sincèrement, je crois que le plus important, c'est le dialogue que nous pouvons avoir ensemble. Et donc, je préfère m'en tenir à ce que je viens de dire déjà. Et je suis très sincèrement à votre entière disposition pour discuter.
Je pense qu'on a quelques questions, parce que moi j'en ai une, par exemple. sur l'idée de Pélage que la sagesse chrétienne et la perfection chrétienne rendent aussi populaire en quelque sorte. On voit un peu cette idée quand même dans certains livres de l'Ancien Testament. Je pense aussi à Sirachite par exemple, ou au Proverbe, où il y a quand même beaucoup l'idée que le sot et le sage sont estimés aussi des. Enfin, le sage est estimé des hommes aussi. Alors ça, il y a des tensions aussi présentes dans ces livres. Peut-être que Pélage met seulement l'accent sur ce côté-là. Mais c'est quelque chose qui est présent aussi dans la Bible, il me semble.
Tout à fait. Non, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Précisément, on a souvent dit dans la recherche que Pélage avait un petit côté vétérotestamentaire. Ne serait-ce que par son insistance sur la notion de loi. À la limite, ce qui est frappant, c'est qu'il insiste plus encore sur la loi que sur la personne de Jésus. Il y a un petit côté Ancien Testament. Si vous voulez, chez Pélage, il y a un peu un retour à l'Ancien Testament, et puis il y a de très grandes affinités avec la philosophie grecque. Avec l'idée, si vous voulez, d'une perfection acquise à la force du poignet. Donc votre remarque est, du point de vue historique, tout à fait fondée. Je vous écoute.
Oui, bonjour monsieur. Merci beaucoup pour votre conférence, c'était très clair. Moi j'aurais une question sur le semi-pélagénisme. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, tout simplement?
Alors c'est encore tout autre chose, mais c'est bien que vous posiez la question. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que comme d'autres spécialistes, je pense que le semi-pélagianisme n'existe pas. Le pélagianisme tout court, oui, en ce sens qu'il y a bien des idées de Pélage qui sont exprimées et qui posent problème au regard de la tradition de l'Église, au regard de l'Écriture et de la tradition de l'Église. En revanche, je crois que ce qu'on appelle le semi-pélagianisme, c'est plutôt un malentendu entre certaines tendances du monachisme de l'époque d'Augustin et aussi d'après la mort d'Augustin, et les courants issus d'Augustin. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a eu des moines qui ont considéré que Augustin mettait un tel accent sur la grâce que on risquait de ne plus voir la place de la volonté humaine et des efforts humains. Donc, il y a eu des questions que des moines de Provence notamment, mais d'Afrique aussi, que des moines, des chercheurs de perfection précisément, se sont posés sur Augustin. Je crois que, globalement, c'est un malentendu. C'est-à-dire que des auteurs chez qui on a cru voir des tendances dites semi-pélagiennes sont, alors là je crois qu'il faut le dire, beaucoup plus orthodoxes qu'on ne l'a cru, et que leur incompréhension de certains passages d'Augustin ne fait pas d'eux des gens qui se sont mis en marge de la tradition de l'Église. Et donc c'est très différent du Coran proprement pélagien, et je crois qu'on peut schématiser en disant que ça relève très largement d'un malentendu. J'espère que ça répond à votre question, n'hésitez pas à continuer.
Merci.
Monsieur, j'aurais une question qui porterait cette fois sur la réception d'Augustin un peu plus tard, au XVIIe siècle. C'est un point que je ne comprends vraiment pas, comment on a pu se retrouver avec donc, un augustinisme qui, là, pour le coup, on a des penseurs qui récupèrent Augustin pour défendre une théorie du petit nombre des élus, dans des milieux plutôt aristocratiques, avec des affinités électives pour la perfection, tout en étant augustinien jusqu'au bout des ongles. Et c'est un point que vraiment je ne comprends pas.
C'est une très grande et très grave question que vous posez. Simon Icare qui va vous en parler, si je ne me trompe. Donc, c'est à lui qu'il faudra faire confiance, évidemment, sur le jansénisme. Moi, ce que je peux vous dire, pour ma part limitée, en tant que lecteur d'Augustin, c'est que je suis très frappé du grand nombre de contresens sur Augustin qui ont été commis au cours des siècles, alors même que par ailleurs Augustin a été compris et a été utilisé d'une manière tout à fait adéquate. Mais c'est vrai qu'on pourrait écrire une histoire. Il faudrait beaucoup de culture, et c'est une culture que je n'ai pas. Mais il faudrait une immense culture et écrire une histoire de toutes les erreurs faites sur Augustin à travers les siècles. Alors, ce que je puis vous répondre, c'est que moi-même, comme vous, et vous l'avez très bien dit, je m'interroge sur ce mystère historique qui est l'incompréhension d'Augustin chez des auteurs d'une si extraordinaire intelligence que des gens comme Pascal ou comme le grand Arnaud, dans le cas de Saint-Cyran, c'est peut-être un petit peu différent, c'est quelqu'un d'un peu plus dur et de moins nuancé. Mais nous avons là, avec les jansénistes, une extraordinaire élite intellectuelle qui, néanmoins, s'est séparée de la pensée de l'Église en se réclamant d'Augustin. Alors ça, c'est vrai que c'est un gros problème. Je suis d'accord avec vous, si vous voulez. Je pense que nous porterons en nous facilement, longtemps, cette question. Comment ces gens aussi intelligents, aussi brillants, ont-ils fait pour se tromper à ce point sur Augustin et sur la tradition chrétienne? Même un Pascal. Je ne veux pas trop donner d'explications, ce serait peut-être hasardeux. Simplement, je voudrais dire une chose. Il y a un fait objectif. Les jansénistes ne lisent pas tout saint Augustin. Ils lisent de manière préférentielle les ouvrages les plus durs de saint Augustin de certains moments de la controverse pélagienne. Et là, je le dis en me référant aussi à des spécialistes du XVIIe. Ce qui est frappant, c'est que les jansénistes considèrent certains ouvrages d'Augustin comme la clé absolue de la pensée d'Augustin. Et ça, ça pose problème. Je vais terminer ma réponse à votre très belle question. Je voudrais la terminer en disant simplement ceci. Ça fait très longtemps que je travaille sur Augustin. Un des grands regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. En fait, saint Augustin, comme saint Thomas d'Aquin, ou saint Paul, ou Jean, ou saint Jean, ce sont des auteurs à qui on peut consacrer sa vie. Cela vaut la peine. Il faut bien choisir les auteurs sur qui on travaille, mais il y a certains auteurs auxquels on peut consacrer sa vie. Ainsi, je cite saint Thomas d'Aquin, c'est parce que je me rappelle avoir à un moment travaillé sur un point de comparaison entre saint Thomas d'Aquin et Augustin, parce que ça m'avait été demandé, c'était une commande d'article. J'ai beaucoup travaillé sur un certain point chez saint Thomas d'Aquin, et puis j'ai trouvé que je ne comprenais pas assez bien. Et j'en ai parlé avec un spécialiste reconnu de saint Thomas d'Aquin, je lui ai dit, écoutez, là, je crois que je vais arrêter, et je vais demander à ceux qui m'ont commandé cet article s'ils acceptent que je ne traite que saint Augustin et pas saint Thomas. Et ce spécialiste qui avait passé sa vie sur saint Thomas d'Aquin m'a dit, oui, effectivement, saint Thomas d'Aquin, au minimum, vous y passez 10 ans ou vous ne faites rien. Et je crois que ça, c'est très vrai. Alors, Augustin, comme saint Thomas d'Aquin, ça suppose qu'on passe un maximum de temps. Et ça vaut vraiment, vraiment la peine. Or, quand on passe du temps sur Augustin, on s'aperçoit que c'est un océan, que son œuvre est un océan, et qu'il est extrêmement difficile de prendre une certaine partie de son œuvre en disant que c'est la clé de tout le reste. Il faut essayer de lire le maximum et d'être le plus possible à l'écoute d'Augustin, mais il ne faut pas avoir, je dirais, la prétention de prendre un bout de l'œuvre de saint Augustin et de dire « ça y est, ça c'est l'essentiel, tout s'éclaire à partir de là ».
Merci beaucoup.
Vous êtes 17e-liste ?
Plus ou moins, oui.
Très bien. Le 17e est un siècle absolument passionnant. Hein. Je pense que si je n'avais pas fait d'antiquité, j'aurais aimé être 17e. Et puis c'est, comme l'avait dit Jean d'Agens en 54, c'était un anniversaire augustinien, le 17e siècle est le siècle de Saint-Augustin. Il y a aussi de bons lecteurs de Saint-Augustin, bien sûr. Non, puis c'est un siècle extraordinaire. C'est un siècle extraordinaire à la fois du point de vue mystique et du point de vue scientifique, ce qui va contre tous les clichés. Merci à vous. Allez-y, s'il vous plaît.
Merci beaucoup pour votre conférence. Enfin, j'étais vraiment très, très, très touchée. La chance qui m'a été donnée d'assister à des conférences, avec celle aussi du Père Orfel, j'étais vraiment particulièrement touchée. J'aurais une question sur un point qui est un peu annexe. En fait, c'est sur la question du péché originel. Sauf erreur de ma part, il m'a semblé que vous avez indiqué que justement Pélage dans son hérésie disait que la conscience humaine n'avait pas été brisée et du coup que l'être humain avait gardé la même capacité à discerner entre le bien et le mal. Et un point que je n'ai pas bien compris en fait personnellement sur le péché originel. En fait, j'ai cru, donc j'ai essayé de reprendre un petit peu la Genèse, et à un moment donné, il m'a semblé comprendre. Alors, vous avez indiqué que le péché originel, c'est l'orgueil, et j'ai sûrement mal compris. À un moment, j'ai eu l'impression que le péché originel, c'était la honte de soi. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, il est question de personnes qui effectivement, ne sont pas habillées, mais qui n'ont pas honte, enfin, qui, un peu comme des enfants, quoi, qui n'éprouvent rien de malsain. Et si j'ai bien compris, disons, l'objet, c'était d'arriver justement à discerner entre le bien et le mal. Et enfin, j'ai l'impression que, une fois, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas très bien compris ce que c'est que le péché originel, si vous pouvez m'éclairer là-dessus. Merci.
Bon, c'est un point extrêmement difficile. Hein. Bien évidemment, je ne prétendrai pas vous donner le fin mot de cette question. Je dirais simplement ceci. Si vous regardez très attentivement le récit du chapitre 3 de la Genèse, et si vous utilisez par exemple des commentaires de saint Augustin sur ce chapitre, vous voyez très bien ceci. Ce que le serpent promet à Adam et Ève, c'est d'être comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et s'il leur dit de s'emparer eux-mêmes du fruit pour être comme des dieux, c'est en supposant, c'est en insinuant que Dieu voudrait priver Adam et Ève. Et là, on a, je crois, un nœud très important, qui est que Adam et Ève, qui sont des bénéficiaires, vous voyez, c'est une chose que nous oublions trop souvent, le titre de créature, la position de créature, c'est une position de bénéficiaire. Adam et Ève, depuis qu'ils ont été créés, passent leur temps à recevoir des dons de Dieu. Et au lieu de faire confiance à celui dont ils ont tout reçu, ils veulent s'emparer eux-mêmes de ces fruits comme si c'était quelque chose dont Dieu les privait, qui risquait de leur manquer, et comme s'il fallait qu'ils s'approprient eux-mêmes une sorte de divinité au lieu de faire confiance à celui qui leur a tout donné. Et c'est là, je dirais, qu'on a ce mélange d'un manque de foi et de l'orgueil. Alors, la honte, la honte dont vous avez parlé, est présente dans le texte. Mais attention, elle est présente dans un second temps, elle est présente comme une conséquence de cette faute commise par Adam et Ève. Et là, on pourrait penser à l'interprétation d'Augustin. Augustin, on l'oublie très souvent, Augustin est un grand penseur de l'ordre. L'ordre, c'est que en l'être humain, le corps est soumis à l'âme et que l'être humain obéit à Dieu. L'âme écoute Dieu, le corps obéit à l'âme. Vous avez deux niveaux comme cela qui font que l'être humain est en harmonie avec Dieu et que l'âme est en harmonie avec le corps. Or, Augustin considère que le péché est une rupture de cet ordre. À partir du moment où l'être humain n'obéit plus à Dieu, son corps n'obéit plus à son âme. Et cette rupture de l'harmonie entre le corps et l'âme, c'est ce qui fait que Adam et Ève ont peur de leur nudité. Parce que le corps leur échappe. Et si je voulais être exact, je dirais qu'Augustin a même réfléchi de façon très prosaïque sur ce qu'il y a d'involontaire chez l'homme dans le sexe masculin, dans l'absence de contrôle de la passion sexuelle. Le fait qu'il y a de l'involontaire dans l'homme. Et ça, pour Augustin, c'est le signe de ce que le corps n'obéit plus à l'âme, conséquence de ce que l'âme n'obéit plus à Dieu. Vous voyez, la honte, c'est cette rupture d'une harmonie entre l'âme et le corps, conséquence de la rupture de l'harmonie entre l'homme et Dieu. Alors, l'arbre, on a beaucoup fantasmé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Augustin dit qu'il n'y a rien à connaître, que cet arbre, il n'a utilité. C'est simplement que si on connaît le mal, on va savoir la différence entre le mal et le bien. Mais que quand on vit dans le bien, on n'a pas besoin du mal. Si vous voulez, le mal n'est pas l'assaisonnement du bien. Le mal n'est pas quelque chose qu'il faudrait pour donner du relief au bien. Le mal, c'est le fruit de la volonté de Satan et de la volonté de l'homme influencé par son adversaire, par son ennemi. Et que à partir de là, il y a du mal qui s'introduit. Mais en soi, le mal n'est pas quelque chose qui serait nécessaire à l'ordre de Dieu. Hein, le Père Urfès nous disait tout à l'heure, hein, le péché n'est pas un élément de la création. Il est une rupture dans la création, introduite non point par la nature, mais par la volonté humaine. La nature humaine est bonne, mais la volonté a pu être mauvaise. Est-ce que ça répond à peu près à votre question ?
Oui, merci beaucoup. Merci.
Et une deuxième question ?
Oui. J'aurais une deuxième question, si vous avez encore du temps pour une autre question. Ce serait sur la façon dont l'Église a tranché la querelle entre Augustin et Pélage. Je sais qu'au Concile de Trente, en réponse à Luther, il y a un décret sur le péché originel. Mais si j'ai bien compris votre conférence, ce n'est pas le seul point d'opposition entre Pélage et Augustin. Et donc, il y a d'autres textes où l'Église dit ce qu'on peut garder de Pélage ou si on doit tout oublier. Et prend position sur les positions d'Augustin sur la prédestination, par exemple.
Alors, sur la condamnation de Pélage, les choses sont claires. Il y a eu, à l'époque même d'Augustin, des condamnations de Pélage et de certains de ses partisans par des conciles des évêques d'Afrique. Puis il y a eu cette condamnation de la part du pape Zosime en 418. Et puis il y a eu une condamnation des idées de Pélage en tant qu'elle mettait en cause le péché originel et par là même faisait perdre son sens à la rédemption. Il y a eu une condamnation au concile d'Éphèse en 431. Donc si vous voulez, les choses sont très très claires en ce qui concerne la condamnation de cette, au fond, de cette négation de la grâce rédemptrice. que pour Pélage, le Christ n'est pas celui qui sauve l'humanité, il est celui qui donne le bon exemple. Mais s'il s'agissait juste de donner le bon exemple, enfin, pourquoi le Fils de Dieu est-il mort sur une croix? Enfin, c'est une chose d'une violence inouïe, indescriptible. S'il s'agissait simplement que le Christ soit une espèce de philosophe donnant exemple d'une perfection purement humaine, on n'a pas besoin de la croix. Et c'est exactement ce qu'a dit Augustin. Augustin dit, parce qu'il est lecteur de saint Paul, il sait ce que c'est que le scandale de la croix, il dit, si on écoute Pélage, il n'y a plus de croix. Enfin, vous savez, nous avons, au début de la messe, nous avons chanté la croix, hein, précisément. La croix n'intéresse pas Pélage. On pourrait même aller plus loin. Comme le dit un de mes amis prêtres, il y a beaucoup de gens pélagiens sans le savoir aujourd'hui. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que dans la rédemption, à travers la passion de Jésus, il y a quelque chose d'absolument mystérieux qui sauve l'humanité et qui n'est pas simplement que Jésus nous donne le bon exemple du courage face à la mort. C'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux qui est la source des sacrements, qui est une grâce, qui est un don auquel nous sommes associés par le baptême et par l'Eucharistie. Donc c'est quelque chose de très mystérieux, c'est pas simplement un bon exemple que vient donner un gentil Jésus que l'on réduirait quasiment à sa dimension humaine. Donc il faut faire très attention à ça, à ce manque de sens du mystère. Alors, pour ce qui est de la prédestination, c'est une... jamais l'Église n'a repris tel quel les propos d'Augustin sur la prédestination. Ça, c'est un point sur lequel la tradition de l'Église n'a pas suivi Augustin. C'est très clair, c'est très net. Alors, après, ce qu'a fait Calvin sur la prédestination, c'est encore tout à fait autre chose. Mais si vous voulez, entendons-nous, hein, que je sois tout à fait clair. Je m'intéresse à Augustin, je me passionne pour Augustin, mais je ne pense pas pour autant qu'Augustin ait toujours raison. Et je dirais volontiers, comme le dit Étienne Gilson quand il écrit sur Augustin, il dit qu'il est prêt à admettre qu'Augustin donne une vision extrêmement complète du catholicisme, mais que c'est la vision d'Augustin. Et il ajoute, c'est Gilson qui parle, le grand Gilson, qui dit « Mais je pense aussi que saint Thomas d'Aquin donne une autre vision qui est tout aussi catholique, tout aussi pertinente pour définir la foi catholique. » Et donc je crois qu'il faut rester là-dessus, hein, c'est-à-dire que nous sommes catholiques, pas augustinistes. Il ne s'agit pas d'idolâtrer Augustin et il ne s'agit pas de le détacher de la tradition ecclésiale, d'où l'intérêt évidemment de votre question où vous vous posez des problèmes de l'attitude de l'Église au cours des siècles. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors, si je puis me permettre d'ajouter une chose, ce qui est important, c'est que vous lisiez par vous-même. Je veux dire par là que si je veux être vraiment sincère avec vous, je dirais, à l'heure actuelle, la seule chose qui m'importe vraiment, c'est de faire connaître Augustin. C'est pas d'écrire sur Augustin et de donner mon interprétation d'Augustin. C'est de plutôt d'essayer de faire connaître Augustin, de faire lire Augustin. Hein, c'est ce que je puis faire de plus utile pour, je dirais, pour l'Église, pour l'évangélisation. Hein, c'est pour ça, je me permets de le dire, le livre que je prépare actuellement n'est pas un livre, en fait je me suis mal exprimé, ce n'est pas un livre sur la pensée politique d'Augustin, c'est un livre de textes recueillis par moi et traduits par moi d'Augustin sur la politique. C'est l'idée de mettre les textes dispersés d'Augustin sur la politique à la portée du public en un volume. Hein, je crois que c'est important pour vous, je le dis, à de jeunes intelligences qui sont en train de se former, lisez les grands auteurs. J'ai terminé sur une phrase qu'avait un de mes très grands maîtres, un dominicain que j'ai connu quand il était très âgé et que j'étais un jeune normalien, le père Raymond Fontaine, dominicain qui travaillait au centre Istina, rue de la Glacière. C'était pas très loin de l'école et je pouvais aller le rencontrer facilement. Le père Fontaine me disait toujours « Nourrissez-vous à la gelée royale ». Ça voulait dire « Lisez les grands textes ». Lisez les textes qui vont vous nourrir pour toute la vie. C'est la chose la plus précieuse que je puisse vous dire. Lisez en n'ayant pas peur d'éliminer ce qui est secondaire, mais au fond, lisez ce qui est pour vous absolument fondamental et du point de vue théologique et du point de vue spirituel. C'est ça, vous nourrir à la gelée royale. Et c'est ce à quoi vous avez droit. Je vais citer le père Jean-Robert Armogade qui fut aumônier de l'école et que j'ai eu la chance d'avoir comme aumônier au tout début, quand il a commencé d'être aumônier. Un jour, alors j'étais allé le voir, chez lui pour me confesser, tout simplement. Et puis j'ai remarqué sur une table basse, à côté de son bureau, des piles et des piles de livres qui étaient tous des nouveautés, qui étaient des services de presse, qui étaient des livres qu'on lui avait envoyés de la part de journaux pour qu'il fasse des articles dessus. Et je lui ai dit, comme vous avez de la chance, frère Armogade, de recevoir tous ces livres. Et il m'a dit, non, ce n'est pas une chance, parce que je reçois de tout, je lis de tout, et je suis obligé d'en parler pour inviter les gens à faire le tri. Et il me dit, mais vous Jean-Marie qui êtes jeune, vous ne devez lire que ce qui est excellent pour vous former, vous devez lire uniquement le meilleur et laisser aux aumôniers d'âge mûr le soin de lire n'importe quoi.
Merci infiniment, monsieur.
Merci à vous.